Alors, pour résumer le point de vue de Venn à ce sujet, on dira que l'efficacité d'une chanson ne tient pas tant à la complexité ou à la profondeur des paroles, ni même à la complexité de la musique, de ses arrangements, qu'au fait que les mots se retrouvent à la bonne place. À la bonne place où, premièrement dans la ligne mélodique, et aussi par rapport au rythme musical, c'est-à-dire au beat. Il dira le mot pelle, par exemple, est banal si on s'en tient au sens que lui donne le dictionnaire, mais dans la chanson Les feuilles mortes de Cosma et Prévert, le mot pelle qui est chanté successivement sur deux notes différentes devient porteur d'émotion. Il donnera en exemple aussi une de ses propres chansons où on peut, si on lit les paroles tout simplement, on trouve cette phrase, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Alors ici, la répétition elle-même insiste sur un fragment de la phrase, mais si on s'en tenait à l'énoncé, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, on voit bien que ce sont les mots qui, sémantiquement, sont les plus forts, devraient être le mot paix, le mot cœur. Mais dans sa chanson, Venn a fait en sorte que la ligne mélodique aboutisse sur une note plus haute qui correspond au mot pas, pas ailleurs. Et là, il s'en explique, il dit qu'est-ce qu'il voulait suggérer sur le plan sémantique là-dedans. Alors, je ne veux pas résumer son propos, mais simplement montrer que parfois, l'art de l'auteur-compositeur sera de mettre en relief les mots, des mots inusités, c'est-à-dire les mots qu'à première vue, on n'aurait pas, sur lesquels on n'aurait pas insisté. Donc, il y a des paroles, des syllabes qui sont à l'avant-plan dans une chanson et d'autres qui sont à l'arrière-plan. Et il est très important que tout ça ne soit pas gratuit. Venn apprécie les auteurs-compositeurs qui pensent les mélodies et les paroles comme un tout, faisant en sorte que qu'il y a un renforcement sémantique de l'un sur l'autre, c'est-à-dire de la musique sur les paroles et inversement des paroles sur la musique. Alors pour Venn, un bon parolier doit d'abord entendre les mots. Les mots deviennent d'ailleurs plus que des mots. Ils sont porteurs d'une parole lorsqu'ils se mettent à résonner d'une manière inédite, singulière, dans l'oreille de l'auditeur. Je vais vous lire à ce propos un passage du livre de Venn, à la page 181, où il tient un propos nettement sémiologique. On voit bien qu'il s'attache à la matérialité, hein, des mots, plus qu'à leur sens, quoique le sens ne soit pas non plus à négliger, bien entendu. Je le cite. Il dit, les paroles de chansons et même les syllabes de ces paroles sont des objets sonores disposés dans un décor sonore, dans un espace sonore. C'est principalement leur disposition dans l'espace sonore et non leur sens qui crée la charge émotive que l'auditeur reçoit. Sinon, la ligne Moi, moi, je t'aime, pendant que les bateaux de Gilles Vigneault, serait une ligne, dit-il, plate à mort. Fin de citation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va tirer de tout cela? Qu'est-ce qui contribue à faire résonner justement les mots de façon singulière? Alors, plusieurs facteurs, bien entendu. La prosodie, que je mentionnais précédemment, la longueur et la hauteur des notes, ça, on examinera ça quand il sera question de la mélodie. Le rapport des mots entre eux, bien entendu, ou pour être plus clair, l'accent mis sur certains plutôt que sur d'autres. Alors, il y a des paroles, des mots qui sont à l'avant-plan, d'autres à l'arrière-plan, mais ceux qui sont à l'arrière-plan sont aussi importants parce qu'ils préparent l'arrivée de ceux qui seront mis à l'avant-plan. Et tout ça, vous le comprenez fort bien, va de concert avec la mélodie. Je vais m'arrêter un instant avant de passer à la question mélodique en tant que telle. Je vais m'arrêter sur la question du beat en rapport avec la prosodie parce que Stéphane Venn y va de quelques propositions qui ne pourraient peut-être ne feront pas l'unanimité. Premièrement, une chose, je pense que sur tout le monde, sur laquelle tout le monde se mettra d'accord, le b.a.-ba, si vous voulez, de l'art de la composition de chansons, c'est qu'il faut faire intervenir les syllabes fortes sur le plan prosodique, là, dans la prosodie du français, il faut les faire arriver sur les temps forts. Dans la structure même rythmique. Ici, il y a un certain nombre de considérations pédagogiques que je ne veux pas résumer parce que ce serait trop long sur justement comment comment battre la mesure, comment taper des mains lorsqu'on est devant une lorsqu'on écoute une chanson. C'est un phénomène qui est courant dans les salles de spectacle. Les gens se mettent à taper des mains. Souvent, ils ne le font pas au bon endroit. Dans une mesure en 4-4, par exemple, les temps forts sont le temps 1 et le temps 3. Mais ce n'est pas sur ces temps-là qu'on doit taper des mains. On doit taper des mains sur les temps faibles, le 2 et le 4. Alors, je résume les choses de façon très, très grossière. Et malheureusement pour vous, je ne vais pas me lancer dans des exemples. Donc, heureusement, peut-être devrais-je dire. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que donc l'idée d'une correspondance entre les temps forts musicaux et les temps forts sémantiques, ceux que l'auteur-compositeur décide, sur lesquels il décide d'appuyer. Autre question à ce propos, c'est pour le respect de la prosodie française. Venn, et c'est là-dessus qu'il n'y aura peut-être pas l'unanimité, Venn donne l'exemple de certaines chansons qui ne respectent pas la prosodie française, donc qui font intervenir le temps fort sur une syllabe qui normalement n'est pas une syllabe accentuée en français. Il mentionne entre autres Francis Cabrel qui a une drôle de façon d'accentuer son phrasé. J'ai pas d'exemple en tête là, original de Cabrel que je connais assez peu finalement, mais bon, je pense que en vous chantonnant une ou deux lignes, vous allez comprendre. Si je dis par exemple l'enfant dans le jardin se lève tôt le matin, alors vous voyez ici qu'il y a quelque chose d'un peu singulier là qui cloche sur le plan du français parce qu'on ne dit pas le matin en français et on ne dit pas dans le jardin. Et chez Francis Cabrel, il y a souvent cette façon-là de chanter. Selon Stéphane Venn, ce serait une influence de la chanson anglo-saxonne, puisque la prosodie anglaise, justement, met l'accent plutôt sur l'avant-dernière syllabe. Alors, et pour lui, c'est une erreur, c'est une faute, une faute de goût, une faute de style, une faute dans l'art d'écrire. Il va mentionner aussi un exemple québécois, en prenant des précautions, en disant toutefois qu'il aime beaucoup cette chanson, mais qu'il y a une phrase en particulier qui l'agace, c'est celle de Marjo avec son copain Miller, Les chats sauvages. Alors cette phrase, c'est « On n'apprivoise pas les chats sauvages ». Tout le monde connaît cette chanson-là, donc vous voyez la façon d'accentuer « Les chats sauvages ». C'est une erreur, c'est une faute pour Stéphane Venn. Moi, j'ai fait ma petite enquête, j'ai donné cet exemple-là à quelques personnes de mon entourage et tous ne sont pas aussi sévères que lui. Certains diront, ben, ça n'a pas d'importance. Bon. Mais on sait qu'il y a quand même un relâchement à l'heure actuelle sur, à l'égard des règles du français et ça se traduit peut-être aussi, probablement, dans la chanson. Mais Stéphane Venn est formel là-dessus. Et il dira que pour lui, les grands auteurs-compositeurs, il va mentionner Vigneault, Charlebois, mais aussi des gens plus jeunes comme Locolocas. Locolocas respecte toujours cette règle-là. Alors que d'autres qui veulent imiter dans le rap, par exemple, les chanteurs américains ne tiennent pas compte de cette règle fondamentale. Alors, je ne veux pas élaborer davantage là-dessus. On va passer maintenant tout de suite à la question de la mélodie. La mélodie. Alors, que pourrait-on dire à ce sujet? Ça semble simple. Tout le monde s'entend pour dire qu'il existe de belles mélodies. Quand on pense à une belle chanson, souvent, c'est à la mélodie que l'on réfère. C'est la mélodie que l'on chante sous la douche ou dans l'auto. Alors, donc d'emblée, je pense que chacun a sa petite opinion là-dessus. Mais quand vient le temps, de façon assez objective, de définir ce que serait une mélodie et surtout ce que serait une belle mélodie, les choses se corsent. Alors, qu'est-ce qu'en dit Stéphane Venn, puisqu'il a tenté d'approcher ce phénomène-là le plus objectivement possible? D'entrée de jeu, il avoue son faible pour les chansons mélodieuses. Il écrit: Pour moi, un auteur de chansons qui ne sait pas mélodier est comme un peintre qui ne saurait pas dessiner. ou un administrateur qui ne saurait pas compter. La chose qui me désole le plus actuellement est l'espèce de snobisme des critiques branchées pour qui l'art de la mélodie serait une espèce de vieillerie surannée, dont la chanson, selon leur concept moderne, pourrait se dispenser. Fin de la citation. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment, parlant de son goût pour la mélodie, tout de suite, Stefan Venn fait intervenir une opinion qui serait répandue chez les critiques qu'il dit branchés ou snobs, qui auraient déconsidéré la mélodie. Et dans tout ce chapitre qui traite de la mélodie, il reviendra justement sur une tendance actuelle qui semble manifester, une tendance qu'on décèle chez les auteurs-compositeurs qui sont le plus en vogue. Et il va nommer même un certain nombre d'entre eux, Dumas, Ariane Moffat, Yann Perrot, Steffi Schock, et un certain nombre d'autres. Alors, il dit, il observe cette tendance à déconsidérer la mélodie telle qu'on la concevait auparavant. Et il observe que les mélodies actuelles sont de plus en plus chétives, on pourrait même dire pauvres. Il entend par là des phrases mélodiques très très courtes qui vont tenir sur une ou deux mesures, souvent répétitives, se situent toujours à la même altitude aussi, c'est-à-dire qui exploitent sur toutes les notes disponibles. Par exemple, un chanteur pourrait à la limite chanter sur deux octaves, mais produit des mélodies qui se tiennent entre quatre ou cinq notes. C'est le cas en particulier de Dumas. Et il se désole un peu de cette tendance qu'il explique par un souci actuel de raffiner l'instrumentation avec toutes les possibilités qu'offre l'ordinateur aussi. On travaille beaucoup sur le son et on investit moins, selon lui, dans le travail mélodique. Mais c'est une opinion et qui ne semble pas partagée par tous, parce que je lisais récemment un article d'Alexandre Vigneault qui rendait compte d'un spectacle de Dumas, et il présentait Dumas comme un grand mélodiste. Alors, allez savoir qui a raison. Mais en termes purement, si vous voulez, quantitatifs, et je reviendrai là-dessus parce que c'est un exercice auquel se livre Stefan Venn, de quantifier certains paramètres associés à la mélodie, il est certain que les mélodies de Dumas, que l'on peut aimer, certes, sont plutôt, se déploient dans un espace assez restreint, tant sur le plan de la longueur de la phrase elle-même que de l'altitude, si je peux reprendre l'expression, l'altitude des notes, la hauteur des notes, leur variabilité, si vous voulez, sur la gamme. Donc, comment produire un jugement à ce sujet? Bien entendu, on peut observer le phénomène, ce que fait Stefan Venn, qui cherche aussi à le comprendre, qui ne le condamne pas. Il cherche à voir qu'est-ce qui a pu occasionner ça. Mais vous remarquerez aussi dans la citation que je viens de rapporter, il parle de conception moderne, des critiques branchées. Donc, il y aurait une tendance qui serait liée à une mode. Et on a l'impression qu'en filigrane, ce qui se dessine là-dedans, c'est un phénomène de génération aussi. Alors, on aura à revenir là-dessus tout à l'heure parce que la question des générations n'a pas été soulevée par Stefan Venn, qui prétend, lui, rendre compte des qualités objectives et transgénérationnelles de la chanson. Alors, je suspends pour l'instant ce discours. Je vais me contenter de présenter les paramètres établis par Stefan Venn pour apprécier ou pour approcher la mélodie. Et je pense que ces paramètres sont valables, effectivement, sur un plan formel pour, par exemple, décrire de la manière la plus précise possible une mélodie. On peut utiliser ces paramètres-là. Il y en a quatre ou cinq. D'abord, la hauteur de la note. Et la position, donc, si on utilise une note haute par rapport aux autres notes de la phrase mélodique, où se situe dans la phrase cette haute note. Souvenez-vous ce que j'avais dit quand j'avais rapporté l'exemple de Stefan Venn de sa propre chanson, « Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs ». Alors, j'avais dit que la note haute se trouvait sur le pas. Alors, ici, dans d'autres chansons, la note haute est d'entrée de jeu. C'est la première de la phrase, comme dans la chanson de Claude Dubois. « Comme tu voudras, comme bon te semblera ». Bon, alors ici, ou encore « Pas besoin de frapper pour entrer chez moi ». Alors, ces exemples-là nous montrent une attaque mélodique qui tout de suite met en valeur le premier mot, voire la première syllabe. Et tout ça, évidemment, a des conséquences. C'est expressif, ça traduit une intention. Dans le cas de l'exemple de Claude Dubois, il est bien entendu que ce qui traduit là-dedans, c'est une espèce de liberté accordée à l'autre de faire à sa tête, et puis de dire, bon, voilà, fais ce que tu veux, tu es libre, et puis comme tu voudras. Et c'est assez dynamique, vous voyez. Ce n'est pas plaintif, c'est pas comme quelqu'un qui serait devant une personne, un adolescent par exemple, qui ne veut faire qu'à sa tête et qui, de façon résignée, lui dirait « comme tu voudras ». À ce moment-là, il aurait fallu trouver une autre mélodie qui n'est pas aussi affirmée. Alors, la hauteur de la note, donc par rapport aux autres notes, bien entendu, est significative. Et c'est quelque chose qui semble être absent d'après ce que raconte Stéphane Venn, et je lui donne raison parce que j'ai fait aussi, je me suis prêté à ce jeu, j'ai écouté de nombreux artistes actuels, et effectivement, on hésite à aller exploiter hein, cette possibilité traditionnelle dans la chanson, qui a longtemps, si vous voulez, été exploitée par les chanteurs à voix, hein, d'aller chercher des hautes notes. L'exemple canonique de ça, c'est le fameux « Minuit chrétien ». Et vous savez comme moi que lorsqu'on entonne durant la messe de minuit ou ailleurs, dans le temps des fêtes, cette chanson-là, tout le monde a hâte d'arriver à cette fameuse note finale qui marque l'apothéose de la chanson. Des artistes comme Bruno Pelletier, ont beaucoup travaillé là-dessus, Céline Dion, bien entendu. Donc, mais il y a un certain raffinement aussi qui peut être élaboré autour de ces hautes notes, c'est-à-dire, comme le signale Stéphane Venn, il n'est pas nécessaire tout le temps de les proférer avec un maximum d'intensité. Chose certaine, ce qu'il écrit à ce propos, c'est que, de façon générale, et là je cite, « De façon générale, plus une note est haute, plus elle correspond à quelque chose d'exceptionnel, un cri, une plainte, un appel, une extase, une grande joie, une grande peine. » Alors, il dit qu'il faut recourir à la haute note à bon escient. Il ne faut pas abuser de ce truc-là, sinon, évidemment, on tombe dans le kitsch, dans le cliché. Un autre paramètre, c'est la durée de la note. Et là, on peut aussi procéder à un inventaire objectif prenant une chanson de la durée moyenne de ces notes. Par exemple, combien la mélodie contient-elle de noir, de croche, de blanche? Alors, et il le fait avec trois ou quatre chansons, et incluant une chanson de Dumas et aussi bon, Yesterday, une chanson de Daniel Lavoie et une chanson de Gilles Vigneault. Alors, il cherche à voir comment s'équilibre les durées des notes. Dans Yesterday, par exemple, on retrouve une panoplie de notes de longueur variable, alors que chez Dumas, l'accroche, par exemple, prédomine nettement sur toutes les autres valeurs de durée de notes. Alors ça, vous voyez, il n'y a pas de jugement encore. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un signe de pauvreté, ou est-ce que c'est efficace ou non, chaque cas est différent. On ne peut pas établir un critère qui serait valable pour toutes les chansons. Il reste que Stéphane Venn semble privilégier les chansons qui vont justement exploiter une diversité sur le plan de la durée des notes. De même, on pourrait parler de la durée de la séquence mélodique ou de la phrase. Prenant Yesterday, Yesterday, sa première phrase mélodique s'étale sur sept mesures, si je ne m'abuse, alors que les chansons d'Ariane Moffatt, de Dumas, de Yann Perrault décrivent des petits motifs mélodiques qui durent une mesure ou deux mesures, parfois trois. Alors tout ça traduit quelque chose, ce n'est pas insignifiant. Maintenant, lorsqu'on observe cela, est-ce qu'on est entraîné vers un jugement de valeur tout de suite ou une appréciation esthétique? Ça, c'est une autre question. Mais poursuivons. Alors, j'ai mentionné la hauteur de la note, la durée. On peut parler de l'écart mélodique aussi, qui est la hauteur des notes les unes par rapport aux autres. Est-ce que la mélodie se tient toujours à la même altitude ou bien si elle voyage, si elle passe des graves aux notes plus aiguës? Évidemment, ça traduit aussi quelque chose, une intensité, et ça mérite d'être donc considéré. Et ensuite, quelque chose de plus complexe à analyser, parce que là, on entre dans un discours musicologique, c'est le rang harmonique de la note, donc la note par rapport aux accords qui la soutiennent. Dans une même tonalité, par exemple, vous avez différents types de notes. Si vous êtes en do, la note tonique, c'est le do. Alors, si vous faites un accord de do et que vous chantez un do, eh bien, ça procure une sensation qui sera différente si vous chantez un mi ou si vous chantez un sol. Le mi étant la tierce, c'est le sol, si je ne m'abuse, la dominante. Alors, vous voyez, ici, on pourrait faire une démonstration, mais je vais simplement vous inviter à imaginer la chose. Évidemment, un bon compositeur, lorsqu'il dessine sa mélodie, évite en général de s'appuyer toujours sur la tonique, parce que ça devient banal. Il peut aller chercher les autres notes de la même gamme, et parfois, j'ai nommé la tierce ou la dominante, mais ça pourra être aussi la septième pour en mettre encore plus de couleurs. Alors ici, le jeu de l'harmonie est vraiment primordial pour créer cet effet. Et Stéphane Venn dira justement que il peut arriver qu'une mélodie exploite peu de notes, mais ce qui fera toute la différence, ce sera la séquence d'accords qui sera derrière. Et qui viendra faire en sorte que la couleur même de la note se modifiera pour notre oreille. Et ça, c'est tout le jeu c'est tout le jeu des modulations. Il y a des gens qui sont des experts là-dedans. Par exemple, le groupe Genesis a beaucoup joué là-dessus. Le chanteur chante une note et ce sont les accords qui se transforment et la note résonne d'une façon différente à notre oreille chaque fois que l'accord se modifie. Et ce qu'on appelle la modulation, c'est s'appuyant sur une note, et avec tous ces changements d'accord, c'est d'arriver même à changer de tonalité sans que l'auditeur ressent quelque chose, mais dans une simple écoute comme ça, ne saurait pas s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout à coup, la chanson change complètement de couleur. On peut passer de mineur à majeur, ou encore passer d'une tonalité à l'autre. Bon, alors, vous voyez, là, j'ai énuméré tous ces critères. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on arrive à produire un jugement? Moi, je dirais d'emblée, le geste critique, ce serait de s'appuyer sur ces paramètres-là et de procéder dans un premier temps à une description de la chanson. Par exemple, on aime une chanson, on cherche à s'expliquer pourquoi on l'aime. Alors, si on aime une mélodie en particulier, eh bien, il faut absolument passer par ces paramètres-là pour la décrire. Et à ce moment-là, on pourra dire où est-ce qu'elle trouve son effet, où est-ce qu'elle trouve sa magie, de quelle manière elle vient nous toucher. Est-ce que c'est parce qu'elle est minimaliste? On a mentionné ce qui se passe à l'heure actuelle dans la chanson québécoise, qui semble justement priser davantage ce contenu mélodique plutôt minimal, sans effet de grandeur ou sans effet rhétorique trop appuyé. Pour certains, ça peut être perçu comme une qualité, cette sobriété mélodique. Mais à ce moment-là, il faut voir si cette sobriété est en accord aussi avec les paroles, par exemple, ou avec la voix. Si on pense à Ariane Moffat ou à Dumas, qui justement sont plutôt sobres dans le développement ou l'élaboration de leurs mélodies, on voit bien que le type de voix qu'ils utilisent, ce sont pas tous ces deux artistes-là n'ont pas forcément de grandes voix, hein. Mais on pourrait se dire, mais ça convient, c'est-à-dire que la manière dont ils chantent, qui est une manière très très douce, qui est pas appuyée, parfois c'est presque un murmure. Alors la façon dont ils chantent correspond bien aussi avec l'univers imaginaire qu'ils cherchent à mettre de l'avant. On ne pourrait pas faire chanter les chansons d'Ariane Moffat par Céline Dion, par exemple, ou les chansons de Dumas par Bruno Pelletier. Ça ferait étrange. Alors, ce sont des chansons, des mélodies qui nécessitent une voix feutrée, pas trop appuyée. Alors, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de critère définitif. On ne peut pas dire, comme tout à l'heure, je le mentionnais à propos du nombre d'accords dans une chanson, on ne peut pas dire, bah, trois accords dans une chanson, donc c'est pauvre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, c'est moi qui je me permets d'intervenir, j'en rajoute par rapport à ce que Stéphane Venn lui-même a avancé, parce que lui, même s'il cherche à être objectif et à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, tend plutôt vers des formes mélodiques que l'on retrouvait davantage pendant les années 70. Par exemple, dans ses propres chansons, Stéphane Venn exploite souvent le pattern que je dirais de l'ascension, l'espèce de crescendo. Il y a quelque chose qui est lié à son époque aussi. C'est une époque d'effervescence, c'est une époque de libération où on avait l'impression tout à coup que le monde s'ouvrait à soi, que l'individu pouvait s'épanouir. Et ça se traduit dans plusieurs de ses chansons. Quelques-unes sont analysées dans son livre d'ailleurs. Il montre comment il les a composées, dans quel esprit il a cherché à transmettre à travers ces chansons-là. Et puis, on voit bien que le schéma ascensionnel est très, très présent dans les mélodies qu'il a construites. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, bon, je le répète, on s'en tient plutôt à quelque chose qui est plus uniforme, qui d'une chanson à l'autre, on a l'impression d'être un peu toujours dans le même univers. Cela dit, et là je fais une petite parenthèse, vous savez, à l'heure actuelle, on vante beaucoup un groupe anglais qui s'appelle Radiohead, et à juste titre, ils ont fait un certain nombre de chansons exceptionnelles, et ce sont des instrumentistes aussi qui sont géniaux. Mais curieusement, plusieurs artistes actuels de la jeune génération revendiquent cette influence-là. Alors que, si vous prêtez attention aux chansons de Radiohead, vous remarquerez que les mélodies correspondent plutôt aux critères avancés par Stéphane Venn. C'est-à-dire que le chanteur Tom York produit des mélodies qui comportent des écarts de notes immenses. Ben, immenses, soyons raisonnables. Donc, il passe souvent à l'octave, par exemple, ou enfin, il joue beaucoup, ça se déplace beaucoup entre les hautes, les basses, et puis la durée aussi de ces notes est très très variée. Certaines chansons exploitent des patterns plus répétitifs, mais c'est souvent en accord aussi avec le contenu même des paroles. Alors, ça m'a frappé, moi, de voir comment ce groupe-là, de même que Coldplay, qui est aussi un groupe qui produit des chansons extrêmement mélodiques. Comment ces groupes-là, qui sont pourtant revendiqués comme des influences, mis à part le jeu de guitare, certains riffs que l'on peut retrouver chez nos auteurs-compositeurs, du point de vue de la mélodie, leur influence semble être minime. Alors, je ferme ici la parenthèse. Et puis, peut-être que je vais fermer aussi le discours même sur la mélodie. Stéphane Venn, lui, a apporté de nombreux exemples. Je ne veux pas m'en rendre compte pendant cette émission. Il faudra que vous lisiez le livre. J'ai simplement voulu retracer quels étaient donc ces paramètres qu'il mettait de l'avant et qui me semblent tout à fait pertinents. Sauf que dès qu'il s'agit de passer de cette description objective des chansons ou des mélodies à un jugement de valeur, un jugement esthétique, à ce moment-là, apparaissent, selon moi, les problèmes. Et je vais terminer avec une réflexion, justement, qui pourrait peut-être ouvrir un petit peu le débat par rapport à ce qu'a installé Stéphane Venn.